Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique sur VOA Afrique que nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons du Cameroun et des États-Unis. La nouvelle est tombée le 15 avril dernier. L'administration Biden va accorder une dispense d'expulsion temporaire et des permis de travail aux Camerounais vivant aux États-Unis en raison du conflit en cours entre les forces gouvernementales et les séparatistes armés dans ce pays. L'information, notamment diffusée par l'agence Reuters, relayait ainsi une décision du ministère américain de la Sécurité intérieure. Cette décision s'appliquera aux Camerounais résidant aux États-Unis au 14 avril et durera 18 mois, a précisé le DHS. On estime à 12 000 le nombre de Camerounais qui pourront bénéficier de ce statut, selon le ministère. Dans une déclaration annonçant cette mesure, le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a cité le conflit séparatiste et l'augmentation des attaques au Cameroun par le groupe islamiste Boko Haram. La violence contre les forces armées dans les régions anglophones du Cameroun s'est intensifiée au cours de l'année dernière, les séparatistes qui combattent le gouvernement francophone augmentant leurs utilisations d'engins explosifs. Nous avons évidemment une pensée spéciale pour toutes les victimes de ces combats, que ce soit du côté des civils, des militaires, des séparatistes. Pensée spéciale également aux victimes de Boko Haram.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et pour parler de tout cela, nous avons comme invité ce soir, dans l'État de West Virginia, Bo Ebert, ancien journaliste et porte-parole du mouvement pour la restauration de l'indépendance du Southern Cameroun. Bo Ebert, bonsoir.
Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être là.
Merci pour votre disponibilité. Nous avons également avec nous ce soir Bakary Tandia, les militants des droits des immigrants. Il est à New York. Bakary Tandia, bonsoir et bienvenue.
Et bonsoir.
Ravi de vous avoir dans l'Amérique et vous. Le troisième invité de cette émission ce soir, c'est bien sûr Maître Joseph Fa. Il est avocat au cabinet Fa Law Group à Silver Spring. Maître Fa, bonsoir.
Bonsoir.
Bo Ebert, je viens à vous. 12 000, c'est donc le nombre de Camerounais qui pourront bénéficier de ce statut. Déjà, quelle a été la réaction de votre mouvement à l'annonce de cette nouvelle?
Merci beaucoup pour la question. Je commencerai par dire qu'à notre niveau, et selon les contacts que nous avons avec le Congrès, le nombre exact des Camerounais, pas exact, le nombre estimé des Camerounais qui pourraient bénéficier de cette disposition, c'est 40 000 plutôt que 12 000. C'est une bonne chose pour les Amazoniens. Ça justifie aujourd'hui clairement que le gouvernement américain a un grand intérêt à mettre fin aux crimes de guerre, aux crimes atroces, au génocide qui est en train d'être perpétré dans le Southern Cameroun aujourd'hui par le gouvernement camerounais. Et donc on espère que ce qui va suivre, c'est permettre également à des réfugiés qui ont été refoulés au Cameroun, à peu près 200 personnes, de revenir sur les États-Unis. Nous avons déjà plaidé pour cette cause. Et de permettre à ceux qui restent ici de bénéficier non seulement du TPS, mais également de l'asile politique. Parce que si on reconnaît qu'ils se mettraient en danger en retournant au Cameroun, le statut qui les protégerait correctement, et le statut d'asile politique.
Voilà, donc nous reviendrons effectivement sur certains des aspects que vous avez évoqués tout à l'heure. Et effectivement, certaines ONG parlent de 40 000 Camerounais, notamment Mandela Center International, même si le ministère évoque 12 000. Nous verrons tout cela au cours des mois à venir. Donc, Bakary Tandia, vous êtes, vous, militant des droits des immigrants. Qu'est-ce que cette nouvelle des Camerounais signifie pour votre organisation et le travail que vous abattez pour les migrants?
Cette décision est une décision importante. Comme mon frère Bo vient de le dire, il y a beaucoup de limitations par rapport à ça. L'idéal, compte tenu de la situation qui perdure au Cameroun avec la persécution des populations paisibles, bon, l'idéal aurait été de leur permettre d'accéder à l'asile qui donne un statut beaucoup plus stable et qui offre beaucoup plus d'avantages. Mais le fait de prendre note de la situation qui prévaut au Cameroun n'étant pas, en tout cas, à apprécier, ils doivent aller un peu plus en avant si on fait la comparaison avec les efforts qui sont en train d'être déployés pour répondre à la crise en Ukraine. Bon, nous soutenons la situation humanitaire critique et grave qui se passe en Ukraine. Donc, les vues humaines sont comparables, sont les mêmes. Donc, je pense qu'il serait en tout cas très important qu'on traite tout le monde exactement de la même manière.
Maître Fa, le Mandela Center International, une ONG qui opère au Cameroun, dit être submergé par les plaintes et les appels de détresse à l'aide des milliers de Camerounais en attente d'asile aux États-Unis. On l'a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe justement avec ces demandes d'asile qui n'aboutissent toujours pas? Et est-ce que ce statut de TPS peut changer quelque chose pour ces demandeurs?
Je dirais oui et non. Oui, parce que pour ceux qui parviennent à obtenir le statut de TPS, ils sont naturellement et automatiquement protégés contre toute éventuelle déportation. Mais obtenir l'asile serait mieux. Voilà pourquoi je dirais oui et non. L'asile vous donne un statut, vous avez la possibilité d'obtenir la résidence ici avec l'asile. Déjà, lorsque vous avez l'asile, vous avez la possibilité de faire venir vos familles, ce qui n'est pas le cas avec le TPS. Par rapport aux délais qui sont liés à l'administration des dossiers d'asile, n'oublions pas que lorsque le président Trump est venu au pouvoir, il a sorti un nombre de décisions qui ont bloqué un certain nombre de dossiers dans la procédure, dont les lois, on a réduit, il y a beaucoup de juges qui ont dû démissionner à cause des politiques, des décisions qui étaient imposées au ministère de la Justice par le ministre de la Justice à l'époque, Jeff Sessions et ses successeurs. Donc, beaucoup de juges ont démissionné, ce qui faisait qu'on n'avait plus beaucoup de personnel pour étudier ou juger les dossiers. Deuxièmement, on a le début de la pandémie qui est venu également créer un grand retard dans l'administration, dans toutes les administrations d'ailleurs, ce qui fait que même les efforts qui sont en train d'être consentis par l'administration actuelle, j'ai voulu dire l'administration de Biden, les efforts qui sont consentis ne peuvent pas encore être ressentis immédiatement parce qu'on sort à peine de la pandémie. Donc il y a cela qu'il faut regarder et naturellement, pour finir, la montée des conflits autour du monde. On a maintenant l'Ukraine qui vient s'ajouter sur la vague des gens qui demandent l'asile. Les pays, les gens qui étaient bloqués à la frontière sont en train d'être reçus. Donc, la demande est assez élevée pour le personnel suffisamment réduit. Voilà, entre autres, ce que je peux dire.
Bon, et bête, au Cameroun, l'opinion est partagée sur cette mesure des autorités américaines. Selon qu'on soit du côté du gouvernement, des organisations des droits de l'homme ou même du côté des parents, les autorités, par exemple camerounaises, pensent que certains pays étrangers, y compris les États-Unis, hébergent ce qu'ils qualifient des séparatistes. Et pour elles, le fait d'accorder ce statut aux Camerounais vivant ici renforce cette position et légitimise en quelque sorte l'acte des séparatistes. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Tout d'abord que l'Amérique agit tardivement par rapport au problème qui est posé. C'est un problème de droit international. Et le peuple du Southern Cameroun agit en plein droit international. Il ne faut jamais oublier qu'il s'agit de deux États égaux. L'un qui a obtenu l'indépendance le 1er janvier 60 et l'autre qui a obtenu son indépendance le 1er octobre 61. Ces deux États ont formé un pays dans le cadre d'une fédération, mais il y a eu des abus exactement comme on le voit aujourd'hui avec la Russie. Une fois partie l'Union soviétique, la Russie a pensé qu'il pouvait aller envahir à nouveau l'Ukraine et le recoloniser. C'est ce que le Cameroun a fait dans le cadre de l'État du Southern Cameroun. Et donc, l'Amérique intervient un peu tardivement par rapport à ce problème. essentiellement parce que dans la diplomatie, on n'a pas voulu, j'estime, on n'a pas voulu pousser le gouvernement camerounais trop, d'autant que le gouvernement camerounais avait indiqué qu'il était ouvert à des négociations. Mais il a utilisé ces négociations pour essayer d'obtenir une victoire militaire, ce qui ne va pas se passer. Ce que le gouvernement camerounais devait comprendre, ce que les États-Unis signalent clairement, que les crimes de guerre qui sont en train d'être perpétrés dans le Southern Cameroun ne sont pas des crimes qu'on va laisser passer, autant que des crimes de la Russie en Ukraine. Ils doivent ajuster aujourd'hui et venir à la table de négociation avec les membres du Southern Cameroun qui ne sont pas des séparatistes. Nous avons une résolution des Nations Unies qui reconnaît notre indépendance. Nous voulons en jouir. Et donc il s'agit de cela. Et il s'agit de trouver une solution politique à un problème que M. Biya a tourné à un problème militaire. Et un problème, il a voulu nous faire confondre à Boko Haram. Et la distinction, encore une fois de plus, qui est faite ici, d'indiquer qu'il y a Boko Haram et il y a un mouvement pro-indépendantiste, c'est d'indiquer clairement à M. Biya, qui se trompe tout le temps de son régime, qu'il s'agit de terroristes, qu'il s'agit d'un mouvement non-violent. M. Biya a poussé à une guerre de self-defense.
Effectivement, on va suivre tout cela, on va suivre le développement de cette actualité et la situation au Cameroun. Bakary Tandja, dans la décision qui motive l'attribution du statut de TPS au Camerounais vivant aux États-Unis, le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a notamment cité, et on l'a évoqué tout à l'heure, l'augmentation des attaques de groupes armés comme Boko Haram dans les régions septentrionales. Et qui dit Boko Haram dit groupe terroriste en quelque sorte. Est-ce qu'au nom de cet argument-là, les ressortissants des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, Beau l'a évoqué tout à l'heure, et des pays où Boko Haram opère, est-ce qu'au nom de cet argument, ces pays-là ne seraient pas aussi tentés de revendiquer le même statut? Je veux parler des ressortissants de ces pays-là qui sont aux États-Unis.
Exactement. Enfin, vous avez tout à fait raison. Si nous considérons en tout cas la situation au Mali, au Niger, au Burkina Faso, avec des attaques répétées, des attaques sanglantes contre les forces armées, contre les populations paisibles, les ressortissants de ces pays qui sont actuellement aux États-Unis pourraient en tout cas revendiquer la même chose. Parce que nous considérons par exemple au nord du Mali, bon, c'est une situation infernale. La vie n'est pas normale, les vies des populations sont constamment en danger. Boko Haram et les groupes terroristes opèrent librement, c'est aussi et au vu de tout le monde. Bon, donc, bon, je pense que si, en tout cas, on veut réellement considérer des situations pareilles, telles que ce qui se passe, en tout cas, au Cameroun et ailleurs, bon, je pense que ces populations-là mériteraient une assistance humanitaire.
Maître Fa, quelle est la conduite à tenir pour ceux des Camerounais qui souhaitent tirer avantage de ce statut de TPS qui est donc accordé, on le rappelle, aux Camerounais vivant ici aux États-Unis à la date du 14 avril? Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement?
Bien, c'est soumettre une demande de statut de TPS, le formulaire, sur le formulaire I-821. Notamment, si vous demandez le statut de TPS, je vais fortement encourager de soumettre une demande de permis de travail et une demande de voyage, même si vous n'avez pas l'intention de voyager. Les formulaires à utiliser, c'est le I-821, le I-765, I-131. Pour ceux qui sont indigents, qui n'ont pas la possibilité de payer les frais, parce que lorsque vous soumettez le TPS, il y a des frais de demande initiale en fonction de votre âge qui s'élèvent entre $50 et $545. Donc moi, je vais considérer ceux qui n'ont pas la possibilité de payer les frais, de soumettre le formulaire supplémentaire I-912, pour que le gouvernement puisse vous faire une dispense des frais. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire là-dessus, mais au moment où je vous parle, sauf erreur de ma part, on n'a pas encore la possibilité de soumettre la demande de TPS pour les ressortissants camerounais, parce qu'il faudrait qu'on publie, que le gouvernement publie au journal officiel du gouvernement qui s'appelle le Federal Register. Il faudrait que ce soit publié là-bas avant, comme ça l'USCIS va donner les modalités nécessaires pour envoyer les demandes. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit possible de déposer la demande aujourd'hui, quoique les formulaires soient disponibles. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus.
Bon, Hubert, ce nouveau statut de TPS, c'est aussi quand même un ouf de soulagement, non, pour ces des Camerounais qui jusqu'ici vivaient cachés parce qu'ils étaient en situation irrégulière et qui maintenant vont pouvoir officiellement travailler et aider les familles au pays. Sauf que, comme c'est souvent le cas dans les réseaux sociaux, il y a une certaine désinformation qui pousse certains à ne pas se déclarer ou qui pousserait certains à ne pas se déclarer sous prétexte que l'immigration va maintenant savoir qui ils sont, où ils vivent et pourrait éventuellement les renvoyer au pays. Qu'est-ce qu'il faut en tirer ou quel conseil donner à cela?
Merci pour la question, elle est très pertinente. C'est vraiment ce type d'information dont les citoyens ont besoin. Je dirais tout d'abord qu'à notre niveau, nous sommes en train de lancer des pétitions additionnelles en direction du Congrès, en attendant que ce document soit publié au niveau du registre, pour permettre à ce qu'il y ait, si possible, quelques ajustements. Par exemple, pour le cas des Ukrainiens qui arrivent aux États-Unis, on dit que les familles, s'ils ont des familles qui peuvent les sponsoriser, ils peuvent rester. Alors nous portons volontaires pour sponsoriser les familles sardo-camerouniennes qui arrivent, comme ça ils peuvent rester. Mais la chose vraiment où il ne faut pas, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de se cacher à nouveau pendant que ce statut est disponible. Il faut en profiter pleinement. Il faut que ceux qui ne disposent pas des documents actuellement qu'ils le demandent. C'est vrai que c'est un statut de courte durée et donc au bout de 18 mois, lorsque le TPS, s'il n'est pas renouvelé, les gens retombent dans leur statut d'illégaux, s'ils étaient illégaux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été ravi d'entendre tout à l'heure le maître Ebakari insister sur le fait que le statut d'asile est le plus approprié. Et donc pour tout le monde qui est en train de faire le statut TPS, je dirais également, et nous sommes en train de monter une campagne pour cela, de formuler également la demande d'asile. Le gouvernement américain, par ce statut, reconnaît que les gens se mettraient en danger, seraient l'objet de torture et de toute autre menace, s'ils retournaient au Cameroun. Et cette justification de crainte de persécution politique est la justification pour laquelle exactement les gens demandent l'asile politique. Alors on demande aux gens de pouvoir le faire et comme ça s'assurer qu'au terme du TPS de 18 mois, qui ne se retrouve pas à nouveau dans le statut des légaux.
Vous vouliez parler plutôt de Maître Fa. Maître Fa, qu'est-ce qui se passe justement après les 18 mois de cette dispense d'expulsion?
Après les 18 mois, si le gouvernement ne renouvelle pas la désignation du Cameroun comme TPS, alors le statut, vous tombez dans un statut purement illégal. Si vous avez la chance que le gouvernement étend la durée du TPS, vous n'êtes pas éligible de demander pour la première fois pendant cette durée d'extension. Pour bénéficier de l'extension, il faudrait que vous ayez une demande qui était approuvée pendant la période de première désignation, c'est-à-dire entre le 15 avril et les 18 mois qui suivent. Maintenant, si vous n'avez pas un statut de TPS, naturellement, vous êtes déportable. Il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas de statut de TPS, vous êtes déportable. Si le statut a expiré, vous êtes également déportable, à moins que vous ayez d'autres possibilités de changement de statut, c'est-à-dire par exemple l'asile ou une demande de green card directe. Et il y a 4 façons de demander la green card, notamment le regroupement familial, la loterie américaine, le visa d'emploi ou l'asile. Donc, si vous n'avez rien de tout cela, c'est bien possible que vous êtes passible de déportation. Également, l'éventualité que je ne souhaite pas, c'est que si jamais quelque chose arrivait à la tête de la présidence de ce pays et qu'on venait avoir un autre président qui arrive, il peut terminer avec la même manière que le président Biden a instauré cela, il peut décider d'annuler tout cela. Donc ça peut ne même pas durer les 18 mois. Donc l'idéal, c'est que s'il y a possibilité pour quelqu'un d'avoir l'asile, s'il vous plaît, faites-le.
Est-ce que ça veut dire aussi que vous pouvez faire une demande de TPS et être rejeté?
Oui, très très bonne question. C'est très bien possible que vous faites la demande de TPS et que vous êtes rejeté. Premièrement, si votre demande ne prouve pas que vous étiez ici avant le 15 avril, je dis avant le 14 avril, c'est garanti que vous ne serez pas admis. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les règles, les conditions d'inadmissibilité en droit américain, en droit d'immigration. C'est que si vous êtes passible de certains crimes, ou bien vous avez commis un certain nombre d'erreurs au niveau de l'immigration, bien du gouvernement fédéral, il faudrait que vous fassiez une demande de dispense en utilisant le formulaire supplémentaire 601. Si cette dispense ne vous est pas approuvée, si cela ne pardonne pas les crimes que vous avez commis, ou bien l'erreur que vous avez commise, par exemple une fraude en matière d'immigration avec le gouvernement, en ce moment, on se garantit que votre TPS ne sera pas approuvé. Donc il y a une démarche supplémentaire pour des gens qui ont soit un casier judiciaire lourd, ou alors qui ont commis certaines fraudes au niveau de l'immigration.
Bakary Tandja.
Bon, par ailleurs, ce que je voudrais en tout cas ajouter par rapport en tout cas au TPS, bon, je pense que les Camerounais doivent appliquer massivement pour deux raisons. Bon, tout d'abord, c'est une opportunité de mettre en relief le problème camerounais. Et deuxièmement, en appliquant massivement, ça va montrer que le besoin existe. Et en plus, c'est une opportunité d'incorporer ceci dans la stratégie de plaidoyer pour faire avancer la lutte.
Alors, c'est bien dit. On va faire un dernier tour de table pour le mot de fin. En quelques secondes pour chacun, si vous pouvez. On va commencer par Boebet, le mot de fin.
Bon, je dirais d'abord merci d'avoir participé, de m'avoir invité à cette émission. Je signale pour ce qui est du Cameroun, du régime de M. Biya, que l'administration Biden a choisi la période la plus longue pour le TPS parce qu'il comprend très bien que la situation au Cameroun n'est pas à régler demain. 18 mois, c'était le choix maximal. Je dirais, en dessous, dernier mot, que pour les Southern Camerounais, il faut absolument demander l'asile politique. C'est ce qui est le meilleur statut pour vous, en plus de formuler le statut TPS. Et pour le gouvernement camerounais, on vous attend à la table de négociation. Ce problème est un problème politique. Il se réglera sur la table de négociation et toute aventure militaire est vouée à l'échec.
Maître Fah, le mot de fin.
Merci une fois de plus, John. Je voudrais dire bonjour à M. Beau, particulièrement. Et bonjour à tous les auditeurs. Merci de m'avoir invité. Toujours un véritable plaisir.
Merci beaucoup. Bakary Tandja, vous avez le mot de la fin.
Oui, c'est pour dire tout simplement que ce TPS n'est pas tombé du ciel. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent. C'est le résultat d'une action concrète. Donc, mon mot de fin est d'encourager tous ceux qui écoutent d'être actifs, d'être engagés et de faire, en tout cas, du plaidoyer. C'est extrêmement important pour résoudre nos problèmes.
C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous présentée par John Linden. Production Lionel Gaïmal, Georges Léonard Sagnot. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manelakidze avec vous dans cette édition du vendredi 22 avril 2022. Au sommaire, aux États-Unis, aux funérailles de Patrick Nguyoya, jeune réfugié congolais, tué par la police, le célèbre révérend Al Sharpton appelle à identifier le policier.